à tous ceux qui m'ont envoyé leurs vœux. Merci pour vos paroles chaleureuses et bien souvent encourageantes. Et avant de reprendre l'enseignement, je voudrais vous proposer un exercice. Et je vous invite à faire cet exercice tous les jours, dans les semaines qui viennent, jusqu'à notre prochaine rencontre. On parle beaucoup de l'impermanence dans le Dharma, de réfléchir sur l'impermanence et sur notre propre impermanence. On sait tous qu'on va mourir, mais on est tous persuadés que l'été prochain, on fera telle chose en vacances, etc. Donc c'est une idée qu'on a, on le sait, mais de là à vraiment intégrer cette idée, c'est autre chose. Alors je vous propose l'exercice suivant. Tous les matins, quand vous vous levez, vous vous dites, eh bien, je meurs à la fin de cette journée. Et vous essayez d'intégrer cette idée-là, cette pensée-là. Non pas de se dire, oui, bon, c'est un exercice, mais je sais très bien que ça ne va pas se produire à la fin de la journée. Essayez d'observer votre esprit et de voir que effectivement vous allez mourir à la fin de cette journée. Et essayez d'établir ce dont vous avez besoin pour que votre mort, eh bien, se passe dans les meilleures conditions. Essayez de réfléchir à ça, mais sincèrement, au fond de vous-même. Prenez l'exercice, mais comme un jeu, mais véritable, quoi. Et de quoi auriez-vous besoin? Là, si tout de suite, là, je vous pose la question, de quoi auriez-vous besoin si vous deviez mourir dans 6 heures? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça?
Chaleur.
Hmm?
De chaleur.
Pardon?
De chaleur.
Une chaleur?
Une chaleur humaine.
Une chaleur humaine, d'accord. Et puis?
Calme et sérénité.
Pardon?
Calme et sérénité.
Calme et sérénité. Vous pensez que le calme et la sérénité, ça va venir dans 6 heures, si vous ne l'avez pas eu les heures qui précèdent?
Non, je pense que ça se travaille avant.
Mais c'est très bien. C'est très bien. Si par exemple, vous établissez que vous avez besoin de calme et de sérénité pour, entre guillemets, réussir votre mort, bon, c'est très bien de retenir ça. Après.
Réparer.
Réparer. Réparation. D'accord.
Ranger.
D'accord. Mettre de l'ordre, ranger, c'est... Ouais, d'accord.
Se rappeler les enseignements. Se rappeler aussi le maître, les enseignements.
Oui.
Apprécier tout ce qu'on a eu. Apprécier tout ce qu'on a eu.
D'accord. Vous n'aurez pas le temps de ranger. Parce que si ça se passe dans 6 heures, admettons qu'on soit le matin, ça se passe à la fin de la journée, vous devez aller travailler, bah vous irez travailler. Vous devez faire des courses, et bien vous ferez vos courses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer ce qui va se passer dans la journée. Votre journée, elle va être vécue telle que vous allez la vivre. Simplement, le résultat, c'est que, enfin, ce qui sera nouveau, c'est qu'à la fin de votre journée, eh ben, ça sera fini, quoi.
Alors, on a besoin d'acceptation. Accepter qu'on va mourir.
Mmh. Bon, voilà. Ça, c'est déjà peut-être... on n'est plus dans le faire, on est dans le faire face. Et encore, mais encore. Comment ?
Chaque instant qui passe pendant les 6 heures qui restent.
Oui, mais si vous devez aller travailler, vous irez travailler. Alors comment vous profitez à ce moment-là de chaque instant qui...
Pleinement là, présent dans l'instant pour profiter vraiment des derniers moments qui restent.
D'accord.
Pour repartir.
D'accord. Vous parliez, vous, de chaleur humaine. Si ça se passe demain soir, vous n'aurez peut-être pas forcément, et votre famille et vos amis autour de vous qui viendront, ma chérie, tu es en train de mourir, ben, je suis là, je vais t'aider, quoi. Sur quoi vous allez pouvoir compter, alors? Ouais.
Lâcher prise.
Bah oui. Donc, ce que vous dites là, profiter de chaque instant, lâcher prise, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à votre esprit. Et en fait, ce que vous êtes en train d'énumérer, eh bien, ce sont différentes qualités de votre esprit. Or, est-ce que vous pensez que votre esprit va pouvoir vivre ces qualités-là si vous ne l'avez pas entraîné? Donc... Et pourtant, bon là, on effleure juste l'exercice, mais si vraiment vous faites tous les jours cet exercice-là, si vous observez vraiment ce qui vous paraît vraiment important pour mourir en paix, pour mourir sans regret. Milarepa disait à la fin de sa vie, je n'ai aucun regret, je peux mourir en paix. Et ça, je pense que c'est un élément qui est très important pour nous. C'est que si demain soir, on doit vraiment mourir, comment on se situe par rapport au fait de « eh bien, je n'ai aucun regret ». J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais faire, notamment pour transformer mon esprit, parce que c'est quand même comment la façon d'être de notre esprit avec laquelle on va partir. Il n'y a que ça qui va nous suivre, hein. Tout le reste, même les amis, même sans parler de nos biens, etc. Mais tout le reste, ça ne tiendra pas la route au moment de partir. Mais c'est notre esprit. Dans quel état il va se trouver et dans quel état il va faire face à cette expérience-là. Est-ce qu'on pourra dire, eh bien, ouais, je pars sans regret. Oui, je pars sans crainte, sans peur, mon esprit est paisible, je peux y aller, quoi. Mais tout se ramène, en fait, à l'esprit. Et notre façon de vivre ce moment-là, eh bien, ça sera comme notre esprit vit chaque situation de notre vie quotidienne. Ce ne sera qu'une situation différente, mais ça sera une situation encore de notre vie quotidienne et que l'on vivra peut-être avec des éléments qui craignent fort de perturber la tranquillité de notre esprit. On aura peut-être certaines craintes, certaines peurs, certaines souffrances, voilà. Et pourtant, si vous établissez dans votre liste de priorités pour une mort qui vous paraît, vous, paisible, etc., eh bien, voyez ce dont a besoin votre esprit. Et concentrez votre pratique là-dessus. Parce que si vous devez aller travailler, eh bien, vous allez travailler. Et demain, vous travaillerez, eh bien, vous allez travailler. Mais il y a peut-être une façon d'aller travailler. Il y a une façon d'aborder la situation qui va se présenter et à laquelle on va devoir faire face. Et ça nous appartient. Pour ça que tout à l'heure je disais, en fait, dans les vœux, oui, on peut souhaiter bonne santé, bon, etc. Mais bon, même le pape, le Dalai Lama ou je ne sais qui vous souhaite une bonne santé, si la maladie arrive, eh ben la maladie sera là, quoi. Par contre, notre façon de réagir par rapport à cela, ça nous appartient. Et c'est là où se situe notre libération possible. Ça nous appartient. Et il ne faut pas compter sur un miracle Si demain soir, je vais mourir, je ne peux pas compter sur le fait que, oh bah oui, il y a un miracle qui va se produire et mon esprit sera paisible. Mon esprit ne sera pas paisible si, dans les heures qui précèdent, et si au cours des jours, des semaines, des mois et des années qui précèdent, mon esprit n'est pas paisible face à telle ou telle situation. Comment est-ce que je réagis quand l'autre me regarde de travers? Comment je réagis quand il se produit tel événement dans ma vie quotidienne? Est-ce que je suis toujours sous colère, irritation, jalousie, jugement, tension, crispation, stress, angoisse, etc. Ben, si je suis comme ça, je serai comme ça au moment de ma mort. Et apparemment, ce n'est pas ce que vous souhaitez, quoi. Vous souhaitez mourir paisiblement, non? Et bien ça, c'est à vous de le préparer, quoi. Alors évidemment, si on a 25 ans, 30 ans, on se dit, bon, j'ai le temps d'y réfléchir, il y en a qui sont plus vieux ici que moi, et ben c'est à eux de partir d'abord. Ouais, ça, c'est la logique des imbéciles, quoi, hein. C'est pas du tout la logique de l'impermanence. L'impermanence, elle frappe n'importe quand, n'importe qui, et vraiment à n'importe quel âge, quoi, hein. Oui, il y a plus de chances que celui qui a 80 ans ici parte avant celui qui a 25 ans. Mais rien n'est sûr, comme dit Ajahn Chah. Pas sûr. Mais c'est vrai. Alors essayez de travailler là-dessus, sur cette question, et voyez à partir de cette question, eh bien, les conditions qui vous seraient favorables de mettre en place pour que votre esprit soit paisible à ce moment-là. Mais pas dans 15 ans, demain soir. Quelles sont les conditions au cours de la journée, eh bien, qui vous permettront d'avoir un esprit plus paisible? De quoi avez-vous besoin? Comme environnement extérieur, mais en sachant que l'environnement extérieur, vous ne pouvez pas le modifier. Si vous devez aller bosser, vous irez bosser. Mais j'allais dire comme environnement intérieur, c'est-à-dire votre esprit. De quoi a-t-il besoin? Peut-être de plus de tranquillité, peut-être d'un rythme différent. Essayez de voir ce qui serait favorable à votre esprit pour que vous puissiez vivre plus paisiblement, eh bien, cette expérience. Ça peut être une différence de rythme, une différence de rythme au niveau physique, une différence de rythme au niveau verbal. La vigilance, ça sera l'élément clé dont on aura besoin pour ce moment-là. La vigilance, la présence d'esprit, l'attention à ce qui est, l'attention à ce qui va se passer. Et quelles sont les conditions qui me permettent non seulement d'établir cette vigilance, mais de la maintenir? Vous savez, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit plus le chemin, on ne voit plus la route. Et là, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de vigilance. Or, cette vigilance et cette attention, eh bien, elles ne dépendent pas fondamentalement des situations extérieures. Elles dépendent, eh bien, des conditions que l'on met en place parce qu'elles nous sont indispensables pour que ces qualités d'attention, eh bien, je puisse les mettre en place, mais je puisse les maintenir également. Et ça, c'est à faire dans notre vie quotidienne, dans notre activité quotidienne. Je ne peux pas vous dire, oui, pour que ces conditions soient présentes, il faut que je vive dans un monastère pendant 6 mois, et alors là, à ce moment-là, eh bien, cet environnement-là, qui certes est favorable, mais si vous n'avez pas cet environnement-là, eh bien, comment créer un certain environnement dans votre vie quotidienne de façon à établir et à maintenir, préserver cette attention, cette qualité d'attention? Ça, c'est de la pratique. Ça, c'est la pratique. Et c'est associer notre pratique à cette notion de l'impermanence. Si cette notion d'impermanence est tellement importante, c'est pas seulement pour réfléchir sur le fait que, oui, tout est instable, tout change d'instant en instant, oui, d'accord, mais par rapport à ma propre impermanence, comment va être mon esprit, quoi. Et ça, il faut se préparer à ça. Et si on ne se donne pas, je pense, un plan de travail quotidien dans les heures qui viennent, eh bien, on voit toujours notre impermanence loin devant, c'est plus tard, c'est... voilà. Et le jour où ça arrive, on n'est absolument pas prêt, même si on a 95 ans, on n'est pas prêt. Parce qu'on n'a pas entraîné son esprit à faire face à cette situation. Et il n'y a rien de morbide là-dedans. Parce que cet établissement de l'attention, plus nous allons entraîner notre esprit à être attentif, à être vigilant, eh bien cet établissement de l'attention va devenir, va s'installer de façon naturelle. Un jour, cette attention, eh bien, elle sera naturellement présente dans notre esprit. Et cette attention, elle va nous servir à ne pas crisper les choses, à ne pas s'agripper, à ne pas saisir les choses. On va voir dans notre vie, on va faire face à des situations, on va se rendre compte que on peut rétablir de plus en plus la non-saisie malgré le fait de vivre telle situation, par exemple douloureuse émotionnellement. On va voir qu'au bout de 4-5 minutes, bon, je souffre, mais je me rappelle des instructions du Dharma, et en les réappliquant, je peux faire l'expérience à ce moment-là, et bien que la saisie se relâche, et que mon esprit va vivre autrement cette situation. Mais ça va demander encore un effort. Et plus notre esprit va s'entraîner à cet exercice, eh bien, plus le temps pour rétablir cette non-saisie va être court. À un moment donné, au bout d'une minute, on boit le bouillon pendant une minute, mais une minute après, on applique et ça marche. Jusqu'au moment où ça marche sans avoir le besoin d'appliquer quoi que ce soit. Et là, ça, c'est vraiment l'expérience qui montre eh bien que la non-saisie, elle s'installe de façon naturelle dans notre esprit. Il y a une situation douloureuse qui se produit dans notre vie, on la vit, et en même temps, 99% de notre esprit eh bien, n'est pas submergé par cette émotion. Parce que notre esprit, tout en vivant cette situation, ne saisit pas, ne crispe pas. Cette non-saisie, c'est le fruit de notre pratique. Ça ne peut pas se décréter, ça ne peut pas se décider. Ah oui, je souffre, bon, ben, il ne faut pas que je saisisse. Ça peut marcher si, émotionnellement, la situation n'est pas trop dense, n'est pas trop intense. Mais si c'est une situation très, très intense, même si on le veut, ça ne marchera pas. Si ça marche, alors... c'est le fruit d'années de pratique. Et cet entraînement, eh bien, ça se fait effectivement sur notre coussin, mais ça se fait aussi par cette qualité d'attention que l'on va s'entraîner à maintenir à chaque instant dans notre vie quotidienne. C'est bon? C'est clair? Alors moi, je vous invite tous les jours à développer cette idée-là. Si ce soir, je dois mourir, eh bien, de quoi ai-je besoin? Et petit à petit, vous allez mettre en place, les choses se mettront en place même d'elles-mêmes, les conditions se mettront en place d'elles-mêmes, conditions qui seront plus favorables pour que cette attention eh bien, se mette en place, parce que vous en aurez de plus en plus fondamentalement besoin. Et ça, c'est le fruit de la réflexion sur l'impermanence. Mais il faut que cette réflexion-là, elle soit quelque chose qui... nous secoue, quoi. Parce que réfléchir sur la mort, on y a tous réfléchi, personne n'y croit. En gros. Quand on y croit, c'est oui, plus tard, je verrai bien quand ça se produira, etc. Bien. Le dharma, la pratique du dharma, c'est quelque chose qui doit être concrète, c'est du concret. C'est je dis toujours, c'est ce travail sur l'esprit, comment transformer mon esprit. Or, si vous êtes sincère avec vous-même, si vous vous dites « ce soir, je meurs », sincèrement avec vous-même, vous savez très bien de quoi vous avez besoin, dans quel état vous aimeriez mourir paisiblement. À vous d'établir les conditions pour que vous puissiez vivre cette expérience eh bien, dans les conditions que vous souhaitez. Personne ne peut le faire à votre place. Personne. Même si le Dalai Lama se pointe à Nancy ce jour-là et qu'il vient parce que quelqu'un l'amène à votre lit, n'y comptez pas trop, mais je pense que même s'il est là, il n'y aura pas trop de miracle qui se produira. Hein. Si vous paniquez, vous paniquez, Dalai Lama ou pas Dalai Lama présent à côté de vous. Les Rinpoche. Il y a Chatral Rinpoche qui vient de mourir, là, 103 ans. Mais encore un qui meurt en toute dame. Quoi. C'est-à-dire, bah, comme tous les grands maîtres, quoi. Il n'y a rien à faire. Quoi. Il n'y en a pas un qu'on comprend en train de paniquer, de s'accrocher au barreau de son lit. Quoi. Parce que c'est le moment d'y aller. Quoi. Ils s'assoient tranquilles, tous. Et ils y vont. Quoi. Tranquillement, paisiblement, etc. Si leur esprit peut vivre cette expérience de cette façon-là, ben c'est le fruit de leur pratique. Hein. C'est tout. Et pourtant, si vous répondez sincèrement à ce que vous souhaitez, l'état dans lequel vous souhaiteriez que votre esprit soit à ce moment-là, tous, vous répondez plus ou moins eh bien, la paix, la tranquillité, la non-peur, voilà. Sérénité, etc. Bon, l'année commence bien. Alors, on va avancer dans l'octuple sentier. Alors, comment Rinpoche décrit maintenant la parole juste et l'action juste ? Parole juste, action juste. Rinpoche dit ces trois. La méthode utilisée pour développer la parole juste et l'action juste est similaire à celle décrite pour la pensée juste. Ensemble, ces trois éléments se rapportent à la triade corps, parole, esprit. Les trois facteurs sans lesquels un être humain ne peut faire quoi que ce soit. Donc Rinpoche, là, va développer, en fait, la discipline, ce qu'on appelle la discipline. On n'aime pas trop, peut-être, ce mot. Hein. Mais la discipline spirituelle ou l'entraînement spirituel eh bien, se fait sur ces trois éléments, le corps, c'est-à-dire mon activité physique, mais ma parole aussi, et mes pensées, tout le domaine de l'esprit. Là encore, ça demande un entraînement. Qu'est-ce que je dois modifier dans mon activité physique? Non pas l'activité physique elle-même, mais comment je la vis pour que cette activité physique eh bien, soit plus en accord avec les principes du dharma, de ce qu'on appelle l'action juste, par exemple. Comment la parole juste, eh bien, qu'est-ce que je dois modifier dans ma façon de m'exprimer qu'est-ce que je dois modifier, changer ce mode d'expression qu'est la parole. Est-ce que je suis habitué à mentir? Est-ce que je suis habitué à dire n'importe quoi, à dire tout ce qui me passe par la tête, etc. Ça demande là aussi bien une attention de notre comportement au niveau de la parole et au niveau enfin de notre esprit. Donc ça demande cette discipline corps-parole-esprit demande bien une observation de comment nous vivons tout simplement quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à modifier? Et en sachant que ça ne va pas se modifier tout seul, mais que ça va demander un effort d'attention, là encore, pour rectifier telle tendance que je peux avoir à agir, à parler ou à penser de telle ou telle façon. Et il n'y a surtout pas dans cette façon de s'observer et dans la décision que l'on peut prendre un jugement à avoir. Il n'y a pas un jugement négatif à apporter vis-à-vis de soi si on estime que cette activité physique n'est pas juste parce qu'elle n'est pas conforme. C'est une tendance qui n'est pas conforme au dharma. Il y a juste à constater que je suis formaté de cette façon-là, peu importe de savoir depuis quand et par quoi je suis formaté de cette façon, mais il y a à constater qu'il y a cette tendance, il y a ce formatage. Et là, je peux intervenir pour travailler sur cette tendance et la modifier peu à peu de façon à ce que cette activité physique, verbale et mentale soit plus conforme au dharma. Rinpoche, par exemple, prend l'exemple de la colère. Il dit qu'il y a des gens qui pensent que lorsque la colère, par exemple, se manifeste, on devrait la laisser s'exprimer et s'extérioriser, sans quoi elle pourrait être inhibée et donner lieu, au bout du compte, à une maladie. Il y a un peu de vrai en cela, dit Rinpoche. Si nous gardons quelque chose dans notre cœur et nous pouvons le laisser s'en aller, si nous n'en parlons pas mais y pensons sans cesse, nous réprimons l'émotion présente, quelle qu'elle soit. Cependant, si au contraire nous ne nous y accrochons pas, si nous nous mettons simplement en colère sans plus, il n'y a ni refoulement, ni aucun besoin de laisser la colère s'exprimer. À ce stade, il convient de se demander d'où vient notre colère. Certaines personnes semblent penser qu'elle existe dans le corps, comme s'il y avait un petit sac de colère dans lequel nous puiserions au besoin. Pourtant, nos émotions ne sont pas stockées en nous. Tant que nous ne nous mettons pas en colère, il n'y a pas de colère. Si nous pensons qu'elle existe de manière permanente, elle n'en sera que plus forte lorsqu'elle se manifestera. Donc Rinpoche insiste, il est donc assez important de comprendre que nos émotions ne sont pas constamment présentes. Ces facteurs perturbateurs qui nous empoisonnent ne sont pas continuellement présentes dans notre esprit. C'est pourquoi nous ne devrions pas être trop déstabilisés lorsque la colère ou un autre facteur perturbateur se manifeste. Alors ça, les Tibétains sont assez bons pour ça. Ils sont très surpris vis-à-vis des Occidentaux de voir combien on en fait toute une histoire de nos facteurs perturbateurs. Oh, on s'est mis en colère alors qu'il y a 20 ans que je pratique le dharma et je viens de piquer encore une grosse colère. Alors, je suis nul, je suis bon à rien, mauvais pratiquant, et je culpabilise, etc. Les Tibétains, quand ils voient ça, qu'ils piquent une grosse colère, alors que ça fait 20 ans qu'ils pratiquent le dharma, ils éclatent de rire après. Ils disent, ben voilà, je me suis bien laissé avoir. Il n'y a pas plus, c'est pas plus sérieux que ça, quoi. On a un peu tendance en Occident à beaucoup dramatiser tout ce qu'il se passe dans notre esprit. Il faut simplement savoir à ce moment-là pourquoi on s'est mis en colère. Non pas quelle est la cause de la colère, c'est peut-être l'autre qui m'a insulté, ma colère s'est élevée dans l'esprit. Ça c'est la cause apparente, la cause extérieure, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de vous insulter. S'il a envie de vous insulter, il vous insulte, point barre. Mais par contre, qu'est-ce qui a manqué dans notre esprit qui a fait que la colère, à partir de cette insulte, a pu s'élever, sous l'emprise de laquelle, je lui ai peut-être renvoyé moi aussi une insulte. Et c'est là la pratique d'un pratiquant du dharma, c'est de voir qu'est-ce qui a manqué dans mon esprit et qui a permis à cette colère, vraiment de s'installer et de se développer. Qu'est-ce qui a manqué à ce moment-là? La vigilance. Ce manque de vigilance fait que la colère s'est élevée par le fait d'entendre cette insulte, mais immédiatement, sans la vigilance, mon esprit s'est scotché sur cette colère qui s'élevait dans mon esprit, et mon esprit est devenu colère. Il a fait un avec cette colère, et alors là, ça a flambé dans l'esprit, Et ça a développé, et puis ça a entraîné un résultat que ça vient d'occasionner, quoi. Là encore, eh bien, c'est la présence de la vigilance. Qu'est-ce qui permet l'installation de cette vigilance dans notre esprit? C'est Shiné. C'est Shiné. Donc il faut relier les facteurs perturbateurs qui apparaissent dans notre esprit à notre pratique méditative. Mais là encore, il faut bien comprendre que Shiné, c'est pas juste un exercice de non-distraction, c'est en plus de cet exercice de non-distraction, c'est un exercice de compréhension du fonctionnement de notre esprit. Nous devons comprendre comment fonctionne notre esprit et en quoi la méditation de Shiné peut transformer ce fonctionnement de l'esprit. Sans cette méditation de Shiné, quel est le fonctionnement de mon esprit? Voilà. Et associer ces deux-là. L'observation de l'esprit, la compréhension du fonctionnement de l'esprit. Alors, Rinpoche dit, si nous nous mettons en colère, soit, laissons cela, n'en rajoutons pas. Cela s'est déjà produit tant de fois auparavant. Il n'y a rien là d'inhabituel. Il n'est pas nécessaire de se sentir coupable à ce propos. Si l'on se sent coupable, cela entretiendra également notre colère. Nous la garderons en vie et la prolongerons, lui donnant au bout du compte plus d'importance qu'elle n'en a en réalité. Vous savez, ça rejoint l'histoire des deux moines qui... Au niveau du désir, vous savez que dans le Theravada, un moine ne doit pas toucher une femme. Alors il y a deux moines en Thaïlande qui se baladent et puis qui arrivent vers le bord d'une rivière. Il y a une femme qui ne peut pas passer, qui ne peut pas traverser la rivière toute seule. Donc les deux moines la portent, puis ils la déposent sur la rive d'en face. Puis les deux moines continuent leur chemin. Puis tout en continuant le chemin, il y en a un qui dit à l'autre « Ouais, dis donc... on est moine, on a le vœu de ne pas toucher une femme et on vient d'en toucher une, même si c'était pour l'aider, mais voilà. » Et il y a l'autre qui lui répond, « Mais attends, moi je l'ai portée il y a 10 minutes, cette femme. Toi, tu la portes encore. » Et c'est exactement la même façon de fonctionner dans notre esprit. Quand une heure après notre colère, on est là à se morfondre parce qu'on s'est mis en colère, quoi. L'antidote à la colère, alors, la manière juste de dompter la colère et les autres émotions négatives consiste à essayer de cultiver leurs opposés. L'antidote à la colère est l'amour bienveillant, la bodhicitta relative. Il en va de même pour la jalousie. Plus nous cédons à ce sentiment, plus son pouvoir sur nous grandit. Alors que si nous pouvons comprendre en profondeur à quel point il est inutile et nuisible pour nous-mêmes et autrui, il s'en trouvera affaibli d'autant et diminuera progressivement. Et cela s'applique à tout. Plus notre entraînement à quelque chose est extensif, plus cela se développera fortement pour devenir finalement notre propre expérience. Nous devons par conséquent nous soumettre à une certaine dose de discipline. Donc si vous n'aimez pas le mot discipline, vous le remplacez par entraînement de l'esprit, mais en tout cas... Dans discipline, il y a le mot disciple. Donc c'est peut-être plus positif que discipline en termes de contraintes. Mais si on s'impose une discipline, c'est qu'on suit un chemin. C'est qu'on est disciple du Bouddha, et donc on suit ce chemin-là, quoi. Alors... Si par exemple nous avons tendance à nous exprimer de façon très rude, à trop parler ou à tenir des propos dépourvus d'un sens véritable, nous devrions essayer d'avoir une parole qui soit bénéfique à nous-mêmes et aux personnes que nous rencontrons et créer ainsi une atmosphère plus positive. Lorsque nous parlons à quelqu'un, le fait que la personne se mette ou non en colère ne dépend pas tellement de ce qui est exprimé, mais plutôt de la façon de le dire. Donc nous devrions par conséquent essayer de nous discipliner de sorte à ne pas dire ou faire sans cesse tout ce qui nous passe par la tête. Et alors, à bon entendeur, salut pour les week-ends à Luce. Hein. Parce que les week-ends poulaillers, il va falloir que ça s'arrête, ça. Hein. Mais il y a des week-ends, on se demande si on a jeté du grain et il n'y a pas 50 poules en train de caqueter dans cette salle à manger, quoi. Pardon ?
On n'entend que les poules.
Non, oui, bien sûr. Mais, ouais. Mais je dis ça parce que demain soir, je suis à Meudon. Alors Meudon, la région parisienne, c'est une agitation, mais incroyable. Quand on arrive ici, par exemple, à Nancy, c'est franchement calme. Hein. Puis alors en plus, comme il ne faut pas faire de bruit parce qu'il y a le cours de yoga qui n'est pas terminé, ça nous met déjà dans une condition plutôt favorable pour la pratique. Mais vous arrivez au Chöling de Meudon demain soir, c'est incroyable, quoi. C'est la région parisienne dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que ça caquette dans tous les coins, puis alors fort, de tout, de rien, de la politique, du temps, de Noël, de ci, de là, enfin... Il faudrait faire au moins une demi-heure de méditation pour que les esprits, ça retombe tout, etc. Ça, c'est l'agitation typique de la région parisienne. Et je dis caquette parce qu'il y a une personne qui est là et qui passe de temps en temps dans le chilling et qui dit « Ah, on a acheté du grain ce soir !» Donc c'est cette image qui me revient. Donc nous devrions par conséquent essayer de nous discipliner de sorte à ne pas dire ou faire sans cesse tout ce qui nous passe par la tête. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer de voir clairement quelle façon de dire ou de faire sera la plus bénéfique pour nous et nos compagnons, et quels seraient les actes susceptibles de créer des problèmes. Nous sommes libres de choisir notre propre comportement. Alors bien sûr que notre comportement, il est lié à des tas de tendances, à des empreintes, etc. Mais la pratique du dharma, c'est là-dessus que ça doit agir, c'est là-dessus que ça doit transformer quelque chose. Et à un moment donné, la discipline, c'est ça, c'est avoir le choix. Est-ce que je me laisse aller à ça, ou est-ce qu'au contraire, je fais un travail pour rectifier cette tendance-là? Et si je choisis de rectifier, eh bien, il faut qu'il y ait cette attention pour que je rectifie le maximum de fois où je dois rectifier, quoi. C'est-à-dire que la transformation de notre esprit ne peut pas se faire, eh bien, sans cet entraînement, mais qui se répète encore, encore et encore, et qui peut être vu quelquefois comme fastidieux, mais... on a besoin de cet entraînement et ça ne va pas se faire tout seul. Un pianiste ne devient pas pianiste tout seul simplement parce qu'il admire cet instrument de musique. Il y a un entraînement. Pour l'esprit, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, les moyens d'existence justes. Qu'est-ce qu'on appelle les moyens d'existence justes dans le dharma ? On va s'efforcer d'éviter de gagner sa vie par des moyens qui sont accomplis au détriment d'autres êtres. Alors vous allez me dire, ce n'est pas toujours possible. Voilà. Alors Rinpoche dit, si c'est possible, choisissez un job qui n'est pas au détriment d'autres êtres. Si ce n'est pas possible... Eh bien, continuez ce job-là, mais en tout cas, faites des souhaits pour, eh bien, par exemple, les animaux. Moi, je pense à une personne qui travaillait à une époque dans un abattoir, et c'était vraiment un gros problème éthique pour lui, à tel point que il en avait parlé à Kalo Rinpoche, et Kalo Rinpoche lui avait dit, est-ce que vous pouvez changer de métier? Il lui avait dit non. Bon. Kalo Rinpoche disait, si c'est non, si vous ne pouvez pas changer de métier, vous ne changez pas de métier, vous ne pouvez pas. Mais à ce moment-là, à chaque animal qui passe entre vos mains, récitez des mantras, ayez une pensée de bodhicitta pour cet animal, etc. Donc là encore, si on peut carrément, on peut changer de moyen d'existence, Mais si on ne le peut pas, eh bien, on peut introduire une notion de dharma dans notre façon de vivre ce moyen d'existence. Mais c'est quand même une réflexion qu'on doit avoir. Ça fait partie de l'éthique bouddhiste et ça fait partie des moyens d'existence juste sans un des huit éléments de l'octuple sentier, quoi. Travailler dans une industrie d'armement, c'est pas vu comme franchement un moyen d'existence juste selon l'éthique bouddhiste. Voilà. Alors Rinpoche disait même travailler dans un débit de boisson, c'est pas vu comme un moyen d'existence juste. Alors maintenant, l'effort juste et l'attention juste. L'effort juste consiste à contrôler nos actions et orienter notre énergie dans la bonne direction. Une fois que la ligne de conduite juste est comprise, l'attention est nécessaire à la mise en pratique correcte de cette compréhension. Le degré auquel nous sommes en mesure de faire quelque chose de sensé dépend de notre niveau de vigilance. Donc là, on en revient à cette notion de vigilance, d'attention. Et dans ce paragraphe sur l'effort juste, Rinpoche insiste beaucoup sur l'établissement de la vigilance. Il y a dans le Dharmapada, le Bouddha dit « Un être sans vigilance est un être mort. » Alors, cette vigilance, ça ne doit pas être quelque chose de synonyme d'une tension, hein. Il y a Rinpoche qui cite par exemple un exemple. Il y a un centre, je ne sais pas dans quel pays, mais je pense que c'est un centre de Thich Nhat Hanh. Et vous savez, Thich Nhat Hanh enseigne beaucoup la vigilance dans chaque instant. Alors, il y a le téléphone sonne, donc je suis conscient que le téléphone sonne, je suis conscient que je me lève, je suis conscient que je décroche, je suis conscient que je commence à parler, etc. Mais Rinpoche dit, oui, dans un centre, ils sont tellement conscients que quand ils arrivent au téléphone, l'autre a déjà raccroché en pensant qu'il n'y avait plus personne qui allait répondre, quoi. Hein? C'est-à-dire que... Il ne faut pas que notre vigilance devienne quelque chose de complètement artificiel. On peut rencontrer des gens comme ça dans des centres. Oh, je suis conscient, je suis conscient, je suis conscient. Donc je marche en pleine conscience, c'est-à-dire que je marche comme sur des œufs, de façon totalement artificielle. Je parle en toute conscience, alors je parle très lentement, en étant très attentif. C'est-à-dire qu'il y a un côté naturel qui disparaît. Complètement. C'est pas ça être vigilant. Hein? Être vigilant, c'est un état de conscience à ce qui est, alors que tout se passe de façon naturelle, quoi. Hein? Voilà. Tant que nous ne serons pas attentifs, nous retomberons dans nos habitudes et ne ferons que suivre nos tendances. Pour l'éviter, il nous faut nous ramener au présent et essayer de nous souvenir constamment de la bonne chose à faire. En ramenant notre esprit au moment présent, nous l'empêchons d'être dispersé. C'est le point principal de la pratique. L'instant présent. Or, combien de fois dans la journée, on se laisse aller à tout ce que nous avons vécu dans le passé ou tout ce que nous allons vivre dans le futur ? Regardez les conversations que l'on peut avoir. C'est soit ce qu'on a fait, soit ce que l'on va faire. C'est rarement ce qu'on est en train de faire. Or, quelle est la réalité ? Eh bien, c'est le moment présent. Hein. Parce que ce qui est fait, c'est fini. Et ce qui est à faire, eh bien, ça sera à faire. Et même si ça doit... Quand ça va se faire, ça ne pourra se faire que dans l'instant présent. C'est-à-dire que tout ce qui s'accomplit est dans l'instant présent. La seule réalité, c'est vraiment l'instant présent. C'est pour ça que cette qualité d'attention dont on parlait au début par rapport à notre mort, Kalo Rinpoche, par exemple, disait « Pourquoi avoir peur de la mort ? Ça dure une seconde. Une seconde avant de mourir, on n'est pas mort. Une seconde après, on est déjà mort. » Mais ça dure ça, la mort. Si on s'est entraîné toute notre vie à vivre vraiment dans l'instant présent et à être conscient de comment notre esprit réagit par rapport à cet instant présent, quand cet instant présent sera celui-là, on le vivra comme on a vécu eh bien, les autres instants présents lors de notre entraînement de l'esprit. La libération, c'est l'instant présent. Dans la méditation, efforcez-vous, eh bien, non pas de modifier ce qui se vit dans cet instant présent, mais dans cet instant présent, efforcez-vous de modifier votre réaction à cet instant présent, de modifier votre façon de vivre cet instant présent. Et là, on en revient à deux choses. Vous vous agrippez à cet instant présent, voyez ce que vit votre esprit. Vous en êtes conscient, mais vous le laissez passer, voyez ce que vit votre esprit. En fait, c'est tout simple, si on peut dire. L'entraînement est plus compliqué. Mais ce qu'il y a à faire dans l'instant présent, c'est extrêmement simple. Et toutes nos pratiques du Dharma, elles nous ramènent à cet instant présent. La méditation, ce n'est pas autre chose. Quel que soit l'élément, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, que ce soit une pratique du Vajrayana avec visualisation, récitation de mantra, que ce soit chiné selon les sutras comme on a fait tout à l'heure, peu importe, ça nous ramène toujours à l'instant présent. Comment est-ce que je fais face à ce qui est ? D'où l'importance que les choses sont ce qu'elles sont, et non pas ce que je voudrais qu'elles soient. Là, je suis déjà dans l'irréel, si je vois les choses telles que je voudrais qu'elles soient. Mais après, en dehors de ça, si je fais face à l'instant présent tel qu'il est, ma liberté, ma libération, c'est comment est-ce que je réagis par rapport à cet instant présent. Et c'est là où se vit, où existe cet instant de libération. Ça, c'est à nous de vivre ça. C'est ça la méditation, quoi. La méditation, ça ne consiste pas à accumuler des mantras, Les mantras, c'est un support pour être dans l'instant présent. Une visualisation, c'est un support pour être dans l'instant présent. Un support, la respiration, eh bien, c'est un support pour être dans l'instant présent. Mais vous pouvez méditer sans support. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là dans l'instant présent ? Observez. Et voyez comment votre esprit réagit. Il peut être en paix, immédiatement il peut être en paix par rapport à ce que vous vivez dans l'instant présent. Si vous ne vous agrippez pas à cet instant présent, vous allez le vivre. Rien ne va s'effacer, rien ne va disparaître. Vous allez vivre cet instant-là. Mais vous allez le vivre, l'esprit totalement en paix. Que ce soit le fait de mourir, que ce soit le fait d'être malade, que ce soit le fait d'être très bien, l'esprit sera libre. Et il ne peut être libre que dans cet instant-là. Il n'y a pas d'autre... La méditation, ce n'est pas autre chose. Donc ceux qui accumulent des mantras en pensant que parce qu'ils ont récité 1 million de mantras, l'esprit va se transformer à la fin, à mon avis, ils peuvent en réciter, quoi. Longtemps. Parce qu'ils sont toujours dans une projection sur le futur. Le mot mantra, pour ceux qui sont dans le Vajrayana, le mot mantra c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire le mot mantra ? Protection de l'esprit. Ça ne protège pas l'esprit dans 10 ans quand j'aurai fini de réciter ce que je dois, le nombre de mantras que je dois réciter. Le mantra est une protection de l'esprit dans l'instant présent. Au moment où je récite le mantra, alors mon esprit est protégé. Mon esprit est protégé de la distraction, protégé des tendances, etc. Rinpoche conclut en disant « Il est donc nécessaire de fournir un certain effort pour contrecarrer nos habitudes. » Faut-il encore connaître nos habitudes ? Nous établissons notre vigilance et notre attention pour nous en prémunir. En répétant cela encore et encore, nous intégrerons la pratique du Dharma à nos vies quotidiennes. Et il n'y a pas de technique particulière à appliquer. On y parvient tout simplement par l'attention et l'effort. L'assiduité avec laquelle nous mettons cela en pratique dépend entièrement de nous. Comme il a été dit plus haut, nous sommes nous-mêmes la pratique. Il n'y a pas d'autre pratique que nous-mêmes. Et aucun créneau horaire précis n'est affecté à la pratique. Elle a lieu tout au long de la journée. Nous sommes constamment confrontés à toutes sortes de difficultés et d'émotions. À chaque fois que nous parvenons à les gérer avec vigilance, nous pratiquons. Ainsi, nous pouvons transformer chaque aspect de la vie quotidienne en la pratique. C'est extrêmement important de comprendre ce passage-là. Nous n'avons pas les conditions d'aller passer des années en retraite pour faire ce travail-là sur notre esprit. Mais vous avez des personnes qui dorment pendant des années en retraite. Et vous avez des personnes qui réalisent l'éveil sans être allées faire des retraites de longue durée. C'est une question, là encore, d'attention dans le moment présent. Et de prendre pour support ce que vous avez à faire dans la journée. Mais comment le faire? Comment notre esprit répond dans l'instant présent à ce que nous devons faire dans notre journée? Ça, c'est la pratique. Et ça, ça fait partie de l'effort juste. Et puis le mois prochain, eh bien, on terminera vraiment par la concentration juste, parce que là, Rinpoche va redéfinir certains aspects de Shiné, et de façon à ce que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais donc, efforcez-vous là dans ce mois qui vient de revoir ces différents aspects de l'octuple sentier, hein, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, et puis cet exercice sur, voilà, de quoi avez-vous besoin si vous devez mourir dans 6 heures. Est-ce que vous avez des questions? Monique.
Je peux imaginer de me dire que le jour où ça arrive, je n'ai besoin de rien, puisque je sais que ça s'arrête, je pars toute seule. Mmh. Habillée, pas habillée, peu importe. Je n'emmène rien. Je pars, mon corps s'en va. Mais il y arrive un attentat. Je suis pas morte. Je suis vachement blessée. Mmh. Ça agite autour de moi, on me soigne de là. Et est-ce qu'à ce moment-là, je peux me dire qu'est-ce que ce dont j'ai besoin, je meurs. Là, je vais mourir parce que je ne serai pas. Je ne serai pas soignée complètement. Mmh. Je vais être dans des souffrances terribles. Mm-hmm. Je dis, ça existe. Mm-hmm. Je suis cette personne-là. J'accepte de partir dans d'atroces souffrances. C'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas mon programme de vie. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut à un moment donné se dire, je vais réfléchir, je vais prendre loin, je vais tout seul, je ne veux rien, je suis. Sauf que là, je suis toujours vivante, mais je sais que je suis en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe pour moi?
Mais c'est...
Comment quelqu'un qui sait, qui connaît tout ça, va imaginer, je ne sais pas, un boucher, comment il va imaginer mourir? Toujours dans sa souffrance, avec plus de jambes, plus de bras, plus je sais pas quoi. Il accepte. Donc, comment est-ce qu'on va se dire tous les matins de quoi j'aurai besoin quand je vais mourir? C'est ça la question.
Mais C'est vous qui devez répondre à ça. C'est, si...
Je peux répondre. Mais moi, je m'en vais, j'ai besoin de rien, je pars comme ça. Point, final.
Bon.
Non, ça arrête. Point.
Bon. Et si vous partez dans un attentat, de quoi avez-vous besoin, vous, Monique?
C'est pareil, j'ai besoin de rien, sauf que le moment de l'attentat, ce qui se passe, le degré de souffrance, ça peut durer une minute, ça peut durer des heures, ça peut durer des jours, ça peut durer des années.
Ouais.
Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose?
Ben, alors, deux secondes. Mais vous devez répondre à cela en disant, mais de quoi ai-je besoin si je meurs de cette façon-là? C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est à personne de répondre à cette question. C'est à vous de répondre à cette question. Mettez-vous dans cette situation-là, imaginez-vous dans cette situation, et de quoi avez-vous besoin à ce moment-là? Ça, c'est à vous de répondre à ça. Le but de l'exercice, c'est ça.
C'est-à-dire que quand on ne se fait pas blesser à l'extrême ou pas, on meurt tout seul. C'est tout. Pas besoin d'aller plus loin dans la question, non, c'est pas la peine de créer un décor particulier. Ça prend une seconde de partir, ou deux secondes.
Théoriquement, ça se passe comme ça, oui.
Théoriquement. Sauf que là, si je suis bien agressé, ça prend pas une seconde, deux secondes. Je meurs tout doucement.
Bon, et qu'est-ce qui serait alors profitable pour vous à ce moment-là? Vous aimeriez qu'il se passe quoi dans votre esprit?
Mais si j'avais la réponse, je ne poserais pas la question.
Mais vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui peut vous donner la question? Personne ne peut répondre à cette question. C'est le but de l'exercice, c'est à vous de trouver ça, la réponse. Ça serait trop simple d'aller payer 150 balles pour avoir la réponse.
Non, non, mais comment quelqu'un qui est... Comme les bouddhistes, comment un Rinpoche, il répondrait?
Mais peu importe. C'est pas ça la pratique. Peu importe comment le Dalai Lama va répondre à ça, ou un Rinpoche va répondre à ça. Ce qui est important dans cet exercice, c'est comment vous, Monique, répondez à ça. Arrêtez de chercher dans les bouquins comment les autres répondent à cette question-là. Ce qui est important, c'est comment vous, vous répondez à cette question. C'est la seule réponse qui vous sera valable. C'est comment vous, vous répondez à votre question, à cette question que vous vous posez là. À vous de trouver. Ça ne servira à rien de lire que dans tel ouvrage, que tel maître, etc., répond sa façon de répondre à cette question. Ça ne vous apportera rien. La seule chose qui peut vous apporter quelque chose à vous, c'est comment vous, vous répondez à cette question. Seulement, vous devez la trouver en vous-même. C'est ça la pratique. La pratique n'est pas une recette que quelqu'un donne et qu'il faut appliquer. C'est à chacun de faire sa propre cuisine. C'est à chacun de trouver sa propre recette. Vous avez dans l'hindouisme... comment il s'appelle celui qui vivait dans le sud... Ramana Maharshi. Il a réalisé l'éveil par ce type de questions. À 17 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, on lui a dit qu'il allait mourir. Bon, il a observé son esprit à ce moment-là. Il pète être trouille. Qui a peur? Mais il n'a pas cherché de réponse dans un bouquin. Il a observé son esprit jusqu'à ce qu'il puisse répondre à ça. Et ça, ça a été l'éveil pour lui.
Je ne pose pas la question pour trouver la réponse dans un bouquin, sûrement pas. J'imagine. Et puis ce qui se passe, c'est pas ce que j'avais imaginé.
Ben oui, ben à ce moment-là, répondez. Répondez vous-même à cela. C'est très bien de se poser cette question-là, mais trouvez la réponse en vous-même. De quoi Monique a besoin à ce moment-là, dans cette situation-là? Et ce dont vous aurez besoin, eh bien, ça peut être différent chez une autre personne. C'est pour ça que l'expérience de l'autre ne vous servira à rien. C'est votre expérience, c'est votre vie, c'est votre façon. Vous êtes la seule personne à vivre cette expérience-là. Une autre personne la vivra d'une façon différente. Et d'après la réponse que vous allez faire en vous-même, à partir de là, et là c'est pour chacun de nous, quelles sont les conditions que je peux établir ou modifier pour que ma vie m'aide, ma façon de vivre m'aide à répondre à cette question-là. Et c'est ça la pratique spirituelle.
On est dans l'interrogation permanente jusqu'au dernier instant.
Pas forcément, je sais pas. Je pense que quelqu'un qui meurt en tout d'âme, il n'est pas dans l'interrogation jusqu'à la fin. Il y a longtemps qu'il a trouvé la réponse à son interrogation, ce qui lui permet de vivre sa mort de façon totalement paisible. Mais quand vous lisez la biographie des maîtres du passé, il n'y en a pas un qui a évité la question sur sa mort. L'impermanence, on parle de l'impermanence, mais voilà.
On ne peut pas l'éviter, cette question.
Eh ben non.
Puisque ça fait partie de la vie.
Oui, mais il y en a combien qui mettent la tête dans le sable en...
On ne peut pas l'éviter de toute façon, puisqu'on meurt tous.
Oui. Oui, mais pour moi, c'est une des questions majeures de notre vie, quoi, qui donne un sens à notre vie aussi. Alors après, voilà, chacun a le sens qu'il donne à cette question-là, voilà. Et en tant que pratiquant du dharma, je pense que cette question-là, elle est encore plus essentielle, quoi. Kalwa Rinpoche disait souvent, la plupart des gens ne veulent pas se poser cette question. Tout le monde sait qu'on va mourir, mais ne veulent pas se poser cette question. Il disait, vous êtes dans une situation, il viendrait à l'idée de personne de partir dans un pays étranger dont on ne connaît ni la culture, ni la langue, ni le climat, etc. Que fait-on avant de partir? On prend un guide, on achète un guide, on voit ce qu'on y mange, ce que le climat fait, etc. Il disait, pour cette question-là, alors qu'il y a des guides qui existent, mais c'est surtout le guide intérieur, hein, c'est-à-dire la réponse que l'on apporte soi-même, on n'ouvre aucun guide pour cette question-là. Rinpoche, il prenait souvent cet exemple-là. Et quand vous lisez les biographies des maîtres du passé, ils se sont tous posés cette question. Tous. Un jour, il va falloir se la poser, quoi. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Chatra Rinpoche qui vient de décéder, encore un qui vient de mourir en tuk dam, c'est-à-dire extrêmement paisible. Alors on peut se dire, oui, il est tibétain, il est Rinpoche depuis qu'il est petit, il a été éduqué pour ça, etc. Non, il est Rinpoche parce qu'il a fait ce travail-là. Mais il a fait ce travail. Alors à nous d'être Rinpoche, quoi. Comment ? Tukdam, c'est l'honorifique de Yidam. Donc, en fait, dans la nature de l'esprit. Il est mort dans la nature de l'esprit. Je ne vous ai jamais lu la mort de Kalwa Rinpoche. Quelqu'un pour le mois prochain, envoyez-moi un mail pour me rappeler que, qu'il faut que je vienne avec ce document et je vous le lirai si vous voulez. C'est extrêmement émouvant. D'ailleurs, j'arrive en général pas à le lire jusqu'au bout. Mais quand on a connu comme ça Kalu Rinpoche, c'est extrêmement émouvant. La façon dont Boka Rinpoche, qui a assisté à sa mort, raconte comment Kalu Rinpoche est décédé, quoi. Mais...
Qui partait à l'hôpital et qui a demandé à ce qu'on s'arrête sur le bord de la route. Et puis...
Ah non, ça c'est Boka Rinpoche. Boka Rinpoche, il a fait une crise cardiaque le matin pendant le rituel de Tara. Il n'est pas mort, il s'est fait conduire à l'hôpital, seulement de Mirik à Siliguri, il y a deux bonnes heures de route, et il a refait une crise cardiaque pendant le transport, quoi. Donc là, il s'est fait, il sentait qu'il partait, donc il a fait arrêter son chauffeur. Et il s'est assis au bord de la route, en posture de méditation, et hop, il est parti, tranquille, quoi. Mais Kalu Rinpoche, ça s'est fait, mais... il était à l'hôpital, il s'est fait remonter dans son monastère, et puis, il sentait très bien que c'était le moment de partir. Et Boka Rinpoche, plus le neveu de Kalu Rinpoche, voulait que Kalu Rinpoche retourne à l'hôpital. Ils ont tellement insisté que, pour avoir la paix, Kalu Rinpoche leur a dit « Oui, d'accord, refaites ma valise, je vais me reposer. » Il est allé dans sa chambre, il s'est mis en posture de méditation. Et puis, quand ils sont allés le voir, ils voyaient très bien que Rinpoche était comme ça en méditation. Et là, ils ont compris qu'il fallait le laisser tranquille. Donc, Boka Rinpoche est venu. Kalu Rinpoche lui a donné la main. Il y avait un médecin qui est venu avec une infirmière. Le médecin a dit, mais il ne faut pas qu'il reste assis, il faut absolument qu'il s'allonge. Boka Rinpoche lui a dit, il sait ce qu'il fait, il a besoin d'être assis. Mais pour faire plaisir quand même au médecin, Kalu Rinpoche a assoupli légèrement sa posture. Donc la bodhicitta, mais alors vraiment jusqu'au bout, quoi. Et Boka Rinpoche explique que, il était là en méditation, ses yeux étaient à l'horizontale, ses lèvres bougeaient, donc il récitait un mantra, et tout à coup, tout s'est arrêté. Il est resté comme ça pendant 3 jours, alors qu'il était mort. Et ça, c'est mourir dans la nature de l'esprit, d'une façon extrêmement paisible, sans aucune crainte, sans rien. Et alors, tant que le corps reste en toute dame, dans cet état-là, ça peut durer 3 jours, 7 jours, 21 jours, etc. Il n'y a aucun signe de décomposition. Le corps reste complètement droit, la tête droite. Au niveau du cœur, ça reste chaud. Et quand le tukdam se termine, donc l'esprit là, vraiment quitte le corps, alors la tête s'affaisse et la région du cœur devient froide, comme le reste du corps.
Parce qu'il n'était pas encore mort.
Si, archi mort. Je ne peux pas dire mort et enterré, mais il était mort. Et le certificat médical, oui. Si, non, mais il est mort. Hein. Il est mort. Seulement, voilà, il y a une façon de mourir. Si. Et son corps ne s'est jamais décomposé, d'ailleurs. Ils ont recouvert le visage d'une pellicule d'or, les mains, comme ça, d'une pellicule d'or, et ça, il est mort en 89, et on continue de voir son corps dans un stupa en verre, dans son temple, quoi. Voilà. Et vraiment, tous les maîtres meurent comme ça. Le dernier, c'était Tenga Rinpoche, mais là, Chatral Rinpoche, à 103 ans, est mort de cette même façon, et tous les maîtres meurent de cette façon. Tous les maîtres, c'est pas tous les maîtres, c'est tous les pratiquants. C'est tous les pratiquants. Il n'y a pas besoin d'être Rinpoche pour mourir comme ça. Il y a un jeune français qui est mort comme ça pendant sa retraite de 3 ans, quoi. Chez les Nyingmapa, il y a quelques années, il y a 20 ans de ça. Il a senti tous les effets de la mort qui arrivaient, le soir chez lui, dans sa cellule. Il a eu le temps d'écrire un petit mot à chacun de ses copains de retraite, et s'est mis en position. Et le lendemain, à 4 heures du matin, au lever, on ne l'a pas vu sortir de sa cellule, donc les autres sont allés voir, il était mort, mais en tout d'âme. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir le titre de Rinpoche. C'est-à-dire que chacun qui pratique, eh bien, peut mourir de cette façon-là. Et ça, ça traduit, eh bien, une complète libération, c'est-à-dire un contrôle total de l'esprit, une réalisation de la nature de l'esprit. Mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun miracle. C'est le fruit de la pratique. C'est le fruit de la pratique. Mais pour mourir de cette façon-là, il n'y a aucune crainte, aucune peur, aucune angoisse, rien du tout, quoi.
Mais ces personnes-là croient par exemple en la réincarnation et ça aide. Alors que par exemple, si moi je suis sceptique, j'aimerais bien y croire, mais en même temps je reste sceptique, c'est plus difficile.
En quoi c'est plus facile de mourir quand on croit à la réincarnation?
Pas plus. Enfin. Non, c'est, bah, non, c'est vrai, c'est
l'idée de retour.
Oui.
Comment?
C'est l'idée d'un retour.
Ouais. D'un retour sous forme de limace? C'est pas très réjouissant de mourir en sachant qu'on va revenir comme une limace.
Ah ben là je suis en train de prendre quelque chose. Pour moi je me disais oui, celui qui croit en la réincarnation, ça doit être plus facile. Mais là en fait je me rends compte que...
Parce que dans l'idée de réincarnation, il y a l'idée de karma. Hein.
Ouais.
Là on en revient toujours bien à l'esprit, comment il est quoi. Donc, c'est peut-être pas forcément plus agréable de se dire, oui, je sais pas trop ce qu'il y a dans le sac à dos.
Une personne qui a atteint l'éveil de cette façon-là, ouais, ne reviendra pas en... Enfin, on verra peut-être en autre chose qu'une limace.
Ah ben, en général, il ne revient plus d'ailleurs. Ou s'il revient, c'est vraiment parce qu'il revient et il décide de revenir sous telle forme pour aider les êtres. Ça c'est autre chose. Mais il ne revient plus, on dit, poussé par le vent du karma à ce moment-là. Hein. Il est totalement libéré de ça, quoi. Donc ça, c'est... Enfin bon, j'espère qu'on n'allait pas ouvrir le gaz ce soir en rentrant pour expérimenter, quoi.
C'est pas la saison des limaces, ça va.
Voilà, autre chose.
J'avais une question. Chaque fois que vous dites on récite des mantras, ça ne permet pas d'atteindre l'éveil. Mais c'est quand même un exercice qui peut être utile indirectement pour atteindre l'éveil.
Ça dépend comment vous utilisez le mantra.
Oui, ça dépend.
Voilà.
Ça dépend.
Ouais. Ça dépend comment vous pratiquez. Celui qui récite des mantras en pensant que parce qu'il en a récité 100 000, alors il a 20% d'éveil comme résultat, il n'a rien compris, quoi. Mais par contre, si vous savez utiliser vraiment le mantra, alors ça peut être un support génial pour... ouais, ça d'accord. Je n'ai rien contre les mantras.
Comment savoir comment utiliser un mantra?
Ah ben ça, il faut aller à ce moment-là, voir un lama, discuter avec lui, quoi, quelle pratique faire, comment la faire, etc. Et ouais.
Est-ce qu'il y a une force, une énergie, une force énergétique à un mantra?
Pouah. Seule énergie, la seule force, c'est votre esprit. C'est votre esprit. À Berlin, le mois dernier, là, quand j'étais à Berlin avec Rinpoche a parlé de faire les pratiques dans notre langue. Il y a une personne qui a dit « Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la langue tibétaine une énergie spéciale, vibratoire, qui, quand on dit quelque chose, eh bien, en tibétain, ça vibre plus que quand on le dit en français ?» Rinpoche, il a complètement éclaté de rire. Hein. Il a dit « Ça vibre pas plus en tibétain qu'en allemand, qu'en anglais, etc. » Les Tibétains pratiquent en tibétain parce que c'était leur langue. les Thaïlandais pratiquent en thaïlandais, les Japonais en japonais, donc les Français doivent pratiquer en français, point barre, quoi. Et ça, Rinpoche a vraiment insisté là-dessus, en disant que c'est extrêmement important de comprendre ce que l'on dit dans un texte du Vajrayana, quand il y a une description de telle divinité, les quatre bras, etc. Eh bien, il faut utiliser notre langue de façon à ce qu'il y ait un impact direct, immédiat, sur notre esprit. Après, les mantras, ça c'est autre chose. Mais les descriptions de divinités, par exemple, qu'on voit dans le Vajrayana, il faut les faire vraiment dans notre langue, quoi. Alors Rinpoche rajoutait, ce qui est problématique dans les langues européennes, par exemple, c'est les traductions. Les traductions sont moches, les traductions sont mal faites, c'est pas du tout inspirant. Il disait, dans la langue tibétaine, c'est très inspirant pour un Tibétain. Alors il disait, il faudrait qu'il y ait un poète pratiquant du Dharma qui traduise, qui mette en vers en français, mais que ce soit dans une langue inspirante pour nous, quoi. Parce que alors, franchement, il y a des traductions, c'est... Mais il y a du travail à faire, hein, là. Enfin, voilà. C'est bon? Par cette pratique, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Donc l'exercice, c'est mourir bien.
Je vais vous demander une seconde. Parce que donc j'ai un message à vous faire part de la part de Marion Detti, donc qui est le président d'une association qui s'appelle Maitreya, qui défend la cause des Tibétains. Donc il veut organiser un repas tibétain le 5 mars. Donc si nous sommes encore vivants le 5 mars. Donc ce que je vais faire, j'ai fait 3 photocopies que je vais déposer par exemple sur la table. C'est un peu le déroulement de cette journée. En gros, il propose le matin une initiation à la cuisine tibétaine. Après, vers 18h, il y aura des interventions de personnalités sur le thème, sur le Tibet, la cause tibétaine, ce qui se passe au Tibet en ce moment. Et un repas à 20h jusqu'à 23h. Donc je vous laisse ce qu'il m'a envoyé. Deuxième point, tous les autres mardis, on se voit dans la petite salle. Pour ceux qui veulent venir, pour l'instant, on est toujours 5-6 personnes. Par contre, les horaires ne sont pas les mêmes, on commence plus tôt. C'est à 8h moins le quart et ça dure une heure. Et donc, on fait en gros deux fois 20-25 minutes de méditation. Chacun se débrouille, hein, là, il n'y a pas de. C'est pas commenté, pas dirigé.
Ce que vous annoncez là pour le repas, est-ce que ça a à voir avec une association?
Oui, c'est Maitreya.
Qui vendait des produits de tapis.
Ah non, c'était Solimal, ça va, c'est Solimal. Oui. Non, là c'est Maitreya.
Si.
Ah si, elle existe encore, je pense.
Oui. Solimal,
c'est. Il y a plus de.
C'est qu'elle existe.
Elle
sera théoriquement au début du printemps.
Voilà, et puis donc maintenant, les enseignements avec l'avenue de Lama, ça va être toujours le premier mardi. Hein. Là, il y a quelques personnes qui sont venues la semaine dernière, il y en a eu bien 5 ou 6 quand même. Mais non, là c'était le deuxième mardi, mais maintenant, là jusqu'au mois de juin, il n'y a pas à se compter, c'est vraiment le premier mardi. Si vous avez un doute, hein, il y a le site Bodhisharya, tout est bien indiqué.
Patrick, je peux demander à Lama, est-ce que ce papier-là, ça pourrait faire l'objet d'une publication plus large? Parce que s'il en a que 3, on peut se bagarrer.
Si bon, vous le lisez, non, mais après, si vous voulez d'autres.
Ce que je proposais, c'est que éventuellement je prenne le coup de pied, j'envoie à Orguien et qu'on voit comment on peut diffuser, peut-être. Soit par la de diffusion, la diffusion, etc.
Ouais.
C'est l'idée aussi. Ouais. On enlève ça et puis je récupérerai au moins un exemplaire, puis je l'enverrai à.
D'accord.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Sur la table, passera la revue et...
Je vais vous poser la même question.
Oui.
J'ai besoin de comprendre, je cherche, je pose la question.
Bien.
Pourquoi les autres ici ne se disent jamais rien à la fille qui je viens? Je me dis, moi je suis gênée.
Oh, vous ne soyez pas gênée, Monique.
Alors, quand vous venez les autres, ils n'ont pas besoin de poser des questions comme vous. Vous avez bah, besoin de toujours parler. Mais pourquoi faire des questions pour parler? Pourquoi je réagis? C'est parce que j'ai failli mourir plusieurs fois. Je suis toujours
oui,
là.
Bah, c'est bien.
Donc, je me dis, c'est que j'ai quelque chose à faire.
Oui.
Bon, j'ai fait de l'accompagnement auprès des mourants.
Oui, ça fait un outil, oui. Bon.
C'est
une question
de base.
Oui, mais ça, c'est en vous-même que vous m'avez posé.
Tous ces gens,
ils sont plus que moi. Il faut leur poser la question. Demandez juste. Là, moi, je pourquoi eux ne
posent pas la question. À la fin, je me suis dit, je vais vous poser la question. Demandez à tous ces gens si à la fin de l'année, ils viennent vous dire ce qu'ils en pensent.
Voilà.
Non, il y en a peut-être qui vont dire, elle est toujours en train de la ramener.
Non, mais ça c'est leur problème s'ils pensent ça.
Oui. Moi j'aimerais bien que d'autres posent des questions.
Mais dites-le. Proposez, pourquoi vous le dites à moi?
Je l'ai plusieurs fois dit à deux autres filles qui venaient. Je dis, mais les gens n'ont pas besoin de poser des questions comme toi.
Mais ça, c'est... Ça, c'est...
J'ai eu l'impression que je dérangeais.
Non, ça, alors, du tout. Ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, vous ne dérangez pas du tout. Et si vous avez besoin de poser des questions, posez des questions.
Je ne gêne pas.
Ben oui, et j'espère bien. J'espère bien.
Bon, c'est tout,
il y a peut-être des personnes aussi qui ne posent pas forcément des questions là maintenant, mais qui m'envoient un mail 8 jours après. Qui ont besoin d'un temps.
Moi, je trouve que c'est intéressant d'échanger avec les autres.
Mais posez-leur la question la prochaine fois, par exemple. Dites-le, mais pourquoi vous posez la question?
Je réfléchis, parce que sinon, si je le dis sur un temps un peu vif, ça ne frappe pas, mais ça ne peut pas passer. Je vais y réfléchir.
Voilà.
Ça me pose question.
Oui, c'est vrai, parce que je suis dans la vie.
Je pensais.
J'ai vu, il y a Roche qui sort, du coup, on va aller voir ça avec les gamins.
Non, mais là, c'est...
Moi, la question, c'est parce que longtemps que j'avais
réfléchi. Je te remercie, là, pour dire une question.
Non, mais pourquoi les autres ne posent pas de questions aussi?
J'ai pas besoin de poser des questions.
Voilà.
Je peux poser des questions.
Voilà.
Si vous avez besoin de poser des questions,
je me dis peut-être qu'on peut partager.
Bon, ça va.
Thank you.